Le droit et nous, dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.
L'entrepreneuriat des diplômés étrangers en France, contraintes et opportunités. C'est donc le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Aliutal. Depuis quelques années, les étudiants étrangers ne peuvent plus ignorer l'entrepreneuriat dans la réalisation de leurs projets professionnels. Même si on n'est pas né avec la fibre entrepreneuriale, on est obligé de s'y forger si on veut un plan B contre le chômage après le master. Mieux, de plus de 2 ans, les diplômés étrangers en France qui ne parviennent pas à trouver un contrat de travail en CDI pour faire un changement de statut d'étudiant à salarié peuvent compter sur la création d'entreprises, maintenir leur droit au séjour en France. Pour faire le tour de la question, nous y consacrons 2 numéros, le droit et nous. Nous commençons aujourd'hui à donner la parole aux concernés pour savoir leur point de vue et leur positionnement sur l'entrepreneuriat des étudiants étrangers en France. La semaine prochaine, Aliutal vous donnera des conseils pratiques pour mettre en place vos projets dans l'entrepreneuriat. Bonjour Aliutal.
Bonjour Phil.
Alors, mais avant d'aborder le sujet, pouvez-vous rappeler les règles sur le séjour des étudiants étrangers en France?
Et cela est très important, parce qu'avant de parler de changement de statut, avant de parler d'entrepreneuriat, il faudra au préalable valider son diplôme.
Exact.
Et pour valider son diplôme, il faut devoir séjourner légalement en France. Et il y a des conditions pour cela qui relèvent de la loi et que l'administration exécute de manière très stricte. D'où l'intérêt, effectivement, de cette question, de dire que avant, il n'y avait pas un gros problème à ce niveau-là parce que, effectivement, la France était un pays d'accueil des étudiants étrangers. Il n'y avait pas ce rush-là. Maintenant, c'est une grande destination. On a vu actuellement qu'une loi a été prise, un arrêté en l'occurrence, pour augmenter les frais d'inscription. Ça veut dire que la France est en train de réorganiser la couleur de son enseignement supérieur. Et cela, parfois, n'arrange pas forcément.
Et surtout, réduire le contingent étranger.
Surtout le contingent africain.
Africain,
parce que c'est eux qui vont souffrir davantage de cette loi, parce que le nerf de la guerre aussi, c'est l'argent. Et qu'effectivement, ils n'ont pas carrément les revenus que d'autres étudiants, comme les Chinois, les Indiens, peuvent avoir. Et qu'eux, en général, ils viennent pour des études courtes et ils vont repartir. Donc, au-delà de ce problème de fonds, de problème de moyens pour s'inscrire, il y avait toujours ce problème de droit au séjour. Depuis 2016, après le visa long séjour valant titre de séjour, l'étudiant étranger peut demander une carte de séjour pluriannuelle. Et cela ressort des dispositions de l'article 313-17 du Code des étrangers qu'on appelle CCEDA classiquement. Il faut faire cette demande, ça c'est très important pour ceux qui nous écoutent même de l'étranger, qui sont en Afrique, qui vont venir ici dans les 2 mois qui précèdent l'expiration de votre visa long séjour valant titre de séjour. Il faut prendre la précaution de demander une carte pluriannuelle. Parce que maintenant, vous pouvez avoir une carte pluriannuelle jusqu'à la fin de votre cursus de licence ou de master ou de doctorat. Mais c'est à vous de prendre ça en main et de prendre la diligence de demander ça à l'administration 2 mois avant l'expiration de votre titre de séjour. Une fois que vous avez ce titre de séjour, le critère prépondérant pour continuer à avoir un droit au séjour, à savoir la carte de séjour étudiant, c'est la réalité et le sérieux dans les études. Cela ressort d'un arrêt du Conseil d'État depuis 1994. Maintenant, c'est une jurisprudence qui est acquise. Il est admis que le préfet peut refuser le titre de séjour étudiant, peut refuser son renouvellement si la condition principale du caractère réel et sérieux des études n'est pas accomplie. Tant bien que l'étudiant peut avoir les autres conditions, comme par exemple l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, délivrant un diplôme reconnu au plan national, le fait d'avoir des moyens aussi de subsistance. Ces conditions ne suffisent pas. À partir du moment où le préfet peut dire que vous n'êtes pas étudiant dans les faits ou bien que vous ne progressez pas, il peut valablement refuser de renouveler votre titre de séjour. Et cela fait l'objet d'une grande procédure qui peut compromettre les études de l'étudiant. Parce que une fois que le titre de séjour est refusé et que vous êtes en phase de procédure, même si le recours contentieux suspend l'exécution de la décision, vous n'avez pas un droit à séjour. Et cela peut compromettre, par exemple, l'obligation de faire un stage. L'entreprise peut vous demander un titre de séjour valable alors que vous ne l'avez plus. Donc, il faut faire très attention. Et les éléments sur lesquels le préfet va s'appuyer pour savoir si ce critère de réalité et de sérieux des études est accompli tournent autour de 3 points. l'assiduité aux cours et aux examens. Mmh. Il faut aller aux cours.
Il faut aller aux cours tous les jours.
Oui, maintenant, si vous êtes malade, ça peut se comprendre.
Bah oui.
Mais il faut être abonné présent et non pas être abonné absent.
Exact.
Parce que parfois, on peut le dire comme ça, de manière anecdotique, il y a des étudiants qui, parfois, contraints de travailler, oublient que l'essentiel, c'est les études.
Exact.
On est dans un restaurant qui nous propose des extras. On est au départ sur 20 heures hebdomadaires.
À l'hôtel, parfois, ils n'ont pas le choix. S'ils doivent payer leur loyer, s'ils sont dans des conditions un peu précaires, on a le sentiment qu'il faut survivre absolument.
Effectivement, ça, c'est techniquement. Techniquement, effectivement, ils n'ont pas le choix. Ouais. Mais néanmoins, administrativement, ils doivent avoir le choix. D'autant plus que maintenant, on les oblige de montrer qu'ils ont plus d'argent. La somme qu'on leur demandait maintenant va être quand même colossale. On l'a étudié la dernière fois, l'augmentation des frais, des droits d'inscription et des moyens de séjour. L'administration sera beaucoup plus regardante sur ces éléments-là. Donc maintenant, le fait de devoir chercher des moyens de subsistance ne doit pas vous amener à vous écarter de l'essentiel, ça veut dire les études. Comment? En étant assidu aux cours et aux examens. Il faut aussi progresser, parce qu'on peut être présent et ne pas vraiment étudier.
Ouais.
Il faut avancer. Le critère pour déterminer si vous êtes étudiant ou pas, c'est que vous devez évoluer. Vous ne devez pas faire des redoublements systématiques ou bien plus d'un redoublement par cycle n'est pas toléré. Au-delà, l'administration peut avoir le droit de refuser votre titre de séjour, sauf s'il y a des circonstances extérieures qui ne dépendent pas de vous qui peuvent justifier la non-progression dans vos études. Et ça, j'y reviens, par exemple, dans les ateliers que je fais avec les étudiants étrangers. Je vais y revenir, par exemple, à Lyon ce week-end, où on va parler de ces éléments dans les détails. Et il y a aussi le changement de cursus. Quand on change des cursus de manière incohérente, ces changements que j'appelle des changements en yo-yo, une scolarité en yo-yo. Aujourd'hui, on est en sociologie, demain, on est en philosophie, ainsi de suite. Ces changements ne sont pas bons pour l'étudiant.
Ouais.
Donc, effectivement, ça peut constituer un motif.
Ouais. On fait des bons selon...
Du ping-pong,
voilà.
Selon là où on se sent bien.
Exact.
Avant, ça se faisait en autre temps. Et des étudiants, comme je disais, qui restaient 10 ans à la fac,
ouais,
et ils sont 2 ans en sociologie, ça ne marche pas. 2 ans en droit, 2 ans en littérature africaine, 2 ans en littérature allemande, ainsi de suite.
Alors, à l'UTEL, je vais vous proposer de marquer une pause parce que nous avons beaucoup d'étudiants qui vont réagir en direct sur Africa Radio. Madame Ramatoulaye Diallo depuis Lyon, Madame Fatou Marie Ngueye de Lyon également. À Paris, nous avons Audrey Diotos, Monsieur Najib Sek de Grenoble. En tout cas, il y a du monde. Sekou Camara de Nice. Il nous appelle d'un peu partout, de Fontainebleau également. Monsieur Pacom Bako. Dans quelques instants, on revient. Le droit et nous, je rappelle donc le sujet du jour, l'entrepreneuriat des diplômés étrangers en France, contraintes et opportunités. Et si vous êtes étudiant, n'hésitez pas aussi à nous appeler, à participer à ce débat, à cette émission. On marque une pause de 4 minutes et on revient juste après. Ne bougez pas.
Le droit est nous, dans le plus de la grande matinale sur Africa Radio.
Bienvenue dans la deuxième partie, le droit est nous, l'entrepreneuriat des diplômés étrangers en France, contraintes et opportunités, c'est notre sujet du jour. Ils sont nombreux à nous appeler partout à travers la France, notamment des étudiants. Nous allons commencer tout de suite au 0155 07 58 00. Nous sommes en ligne avec madame Ramatoulaye Diallo qui nous appelle de Lyon. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors, que vous inspire l'autre sujet du jour?
Bonjour, madame Diallo. Bonjour, monsieur Ali Outal, oui.
Ah oui.
Oui.
Alors, que vous inspire notre sujet du jour en tant qu'étudiante?
Alors, donc, dites-nous un peu d'abord par rapport à votre association, parce que, effectivement, donc, vous allez nous recevoir, le droit et nous, on va venir avec vous lors de votre atelier de ce samedi. Donc, pour nous parler un peu de votre programme et ensuite par rapport au sujet, comme l'a bien posé, donc, monsieur Philippe Pambou, comment vous envisagez votre insertion professionnelle? Est-ce que vous paramétrez l'entrepreneuriat comme issue de votre insertion professionnelle? Et si oui, avec quelles opportunités et quelles contraintes surtout vous craignez, que ce soit ici ou là-bas?
Merci. Alors, nous sommes une association des étudiants et stagiaires sénégalais.
Ouais.
Qui sont sur Lyon. Donc, voilà, on organise plusieurs activités dans l'année. Mm-hmm. C'est dans ce cadre qu'il y aura une conférence, en fait, qui sera animée par Monsieur Alioune Tall.
Mm-hmm. Merci pour l'honneur.
Voilà,
avec le droit 25... et nous qui sera présent pour en parler après aussi.
Exactement, oui. Le 25 mai à Lyon. Donc voilà, ça sera sur les droits de l'étudiant et sur l'entrepreneuriat comme, comme, comme le sujet. Thème de l'émission ouais. d'aujourd'hui.
Voilà.
Donc, voilà.
Voilà, que et vous inspire justement ce sujet ?
Voilà, en fait, moi, quand j'entends l'entrepreneuriat, ben, j'envisage, en fait, c'est pas ce que j'envisage pas, mais je j'ai pas d'idée, en fait. Du coup, parce que moi, j'ai fait le droit. Je sais pas qu'est-ce que je puisse entreprendre dans mon domaine. Je fais le droit social. Donc, je pense pour nous, les étudiants, en fait, il faut que ça soit dans le domaine que tu as étudié, je pense.
Effectivement. C'est vrai que déjà, il y a cette contrainte. Effectivement, il faut que, comme pour l'emploi, il faut qu'il y ait une corrélation entre l'emploi qui est proposé et votre cursus de formation. Et pour la création d'entreprise, c'est pareil. Il faut créer une entreprise si vous voulez rester ici en France et maintenir votre droit au séjour dans le domaine de votre formation. Maintenant, effectivement, il y a certains domaines où c'est plus compliqué. Mais le droit maintenant est un outil qui est partout. Donc le fait d'être juriste, ça vous permet de vendre des services juridiques à beaucoup de structures, que ce soit des collectivités locales, des départements ministériels ou bien des sociétés qui externalisent de plus en plus la fonction juridique. Donc au-delà, je ne parle pas de la fonction d'avocat. Les avocats, ils font du contentieux. Je parle du conseil que vous pouvez faire en interne dans une entreprise ou bien en externe en proposant des services. Et donc là, il y a beaucoup d'opportunités à ce qui vous concerne. Et là, vous devez le paramétrer dès à présent. Parce que si l'emploi salarié ne se présente pas au bout du master ou après le doctorat, vous êtes obligé de paramétrer donc, cette possibilité entrepreneuriale pour garder votre droit au séjour et peut-être aussi vivre de ce travail. Ici, comme dans votre pays d'origine ou en Afrique, où le droit a été uniformisé dans le cadre de l'OADA.
Voilà, vous aurez l'occasion hein, ce samedi donc, à Lyon pour poser toutes vos questions, Madame Ramatoulaye Diallo. Je rappelle que vous nous appelez de Lyon. Merci. On va rester...
Merci beaucoup, Madame Diallo.
On va rester à Lyon. On va prendre une autre étudiante, hein, Fatou Marie Gaye. Est-elle en ligne? Bonjour Fatou.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Bonjour Madame Gaye. C'est Monsieur Ali Boutal.
Alors Madame Gaye, l'entrepreneuriat des diplômés étrangers en France, est-ce que vous allez entreprendre un jour?
Oui, bien sûr. Bien
alors
sûr.
Dites-nous.
C'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que je pense que c'est un levier autant en France que dans nos pays, je pense même davantage dans nos pays et particulièrement au Sénégal où l'écosystème de l'entrepreneuriat à travers les start-up de plus en plus est très développé. Donc c'est quelque chose que j'envisage, mais bien sûr chez moi, au Sénégal.
Donc vous envisagez le retour?
Oui.
Et est-ce que vous ne craignez pas, au niveau technique, au niveau des procédures, au niveau administratif, des contraintes qui pourraient se mettre sur votre chemin entrepreneurial?
Pas vraiment. Ayant un peu côtoyé, pas de manière profonde, mais ayant légèrement côtoyé ce domaine-là, je sais que bah il y a les ficelles en fait. On a les ficelles et il suffit de connaître les bonnes personnes pour pouvoir être orienté. Donc en soi, je pense pas que ça puisse être aussi compliqué que d'entreprendre en France d'ailleurs pour une étudiante étrangère. Donc je pense que c'est un peu plus simple pour nous de rentrer en Afrique. Enfin, au Sénégal, d'entreprendre là-bas, d'autant plus que je pense qu'ils ont beaucoup plus besoin de ça que...
Oui, mais là, sur ce point, je vous donne un conseil parce que j'avais eu la même appréhension que vous en certain temps, mais la réalité était différente. Une fois sur place, je parle d'obstacles.
Ouais.
Il n'y aura pas l'obstacle administratif parce que vous n'aurez pas besoin d'un titre de séjour, vous êtes sénégalaise ou malienne ou guinéenne. Mais il y a des réalités sociétales qui n'existent pas en France qui vont exister là-bas.
Ouais.
Je donne un exemple. Les gens vont confondre carrément revenus et bénéfices. Voilà. Les gens, voilà. Tout ce qui est vendu avec vos collaborateurs peut être considéré comme bénéfice. Ça, c'était un problème auquel nous-mêmes, on a été confrontés. Il y a des problèmes administratifs et des problèmes au niveau aussi des administrations. Je donne un exemple. Un projet que moi-même, j'avais piloté ici pour le pays d'origine de 50 millions d'euros pour mettre en place une banque mutualiste pour la diaspora. Et il y avait tellement de quiproquos et de soubresauts au niveau administratif que ce projet a été abandonné. 50 millions d'euros, c'est plus important que vous, ce que vous avez en poche, sauf si vous êtes la fille d'un président ou d'une présidente de pays africain. Vous ne pourrez pas débloquer cette somme. Ce n'était pas mon argent. C'est à travers des connexions de réseau que j'ai pu mettre en place ce projet qui est tombé à l'eau parce qu'il y avait tellement de complications administratives et des gens qui voulaient moi-même m'éjecter parce qu'il y avait le blanc qui venait avec l'argent. Je donne juste un exemple anecdotique, mais que vous aurez des problèmes à ce niveau-là. Il ne faut pas se dire que c'est Yabon Banania, c'est l'Eldorado. Non, ce n'est pas ça. Il faut être très objectif, ne pas être dans un rêve ni dans un mirage comme Tartarin de Tarascon. Donc, je vous donne un conseil. D'accord. Au niveau juridique, effectivement, il y a un organisme qui s'appelle APEX qui devrait être censé faciliter la création de tout ce qui est formel. En ce qui nous concerne, ce n'était pas le cas. Il y avait tellement de complications qu'on nous avait dit 48 heures, ça a pris plus de 3 mois pour créer la forme. Donc, prenez la précaution à ce niveau-là. Ne comptez pas que sur les connexions en disant qu'on connaît les bonnes personnes. Ça, ça doit être le réseau que vous devez créer. Exactement. Mais pas les bonnes personnes en tant que bras longs, comme ça se fait en Afrique. Si vous comptez sur ça, sur les bras ne sont plus longs, vous allez tomber avec les bras courts. Je vous donne des conseils, au fait, techniques. Néanmoins, effectivement, il y a des opportunités, effectivement, comme vous le dites, dans nos pays d'origine. Il y a un besoin, mais il faudrait que, de l'autre côté, ces administrations nous facilitent la tâche, vous facilitent la tâche de créer une entreprise et de manière objective pour que ce soit dans les règles du marché et non pas des règles subjectives. Si c'est des règles subjectives, effectivement, vous dépendez des aléas que vous ne maîtrisez pas. Or, dans l'entreprise, quand il y a trop d'aléas que vous ne maîtrisez pas, le risque d'échec est là. Donc ça, effectivement, c'est un bon chemin de retourner. Néanmoins, dernier conseil, même si vous voulez rentrer dans un premier temps, moi, je parle de l'étudiant lambda, pas l'étudiant qui a beaucoup de moyens ou bien qui n'a pas besoin vraiment même d'entreprendre, qui entreprend pour le plaisir d'entreprendre. Mais si vous partez juste d'un diplôme et de vos compétences, ça veut dire que vous avez besoin d'outils qui dépendent de vous. Donc, je vous conseille, si c'est le cas, avant de partir, saisissez l'opportunité d'avoir un droit de séjour dans le cadre de la mobilité professionnelle qui existe maintenant.
D'être à cheval, c'est ça?
Voilà, à cheval ou bien même voilà, de pouvoir avoir la mobilité. Parce que si on est là-bas et qu'on entreprend, on peut avoir besoin d'une mobilité de revenir ici ou ailleurs. Si le problème du visa se pose à vous tout le temps, effectivement, vous risquez d'avoir un problème pour réaliser votre projet alors que vous êtes retourné. Beaucoup l'ont fait, sur 10, 7 ont voulu revenir. Ne soyez pas dans ce cas de figure, donc préparez bien le terrain et je pense que votre projet entrepreneurial peut aboutir ici et là-bas ou là-bas carrément.
Voilà, merci beaucoup.
On va étudier les détails une fois à Lyon ce week-end. Et donc, merci de nous avoir conviés là-bas. On sera avec vous, avec le KESEL, donc le collectif des étudiants et stagiaires sénégalais de Lyon.
Merci beaucoup, Madame Fatou Marie Gay de Lyon. Hein. Merci pour votre présence. On va revenir à Paris. On va prendre Madame Audrey Diotos. Est-elle en ligne, Madame Audrey Diotos? Bonjour.
Oui, allô? Oui, bonjour.
Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Madame Diotos.
Diotos, nous vous écoutons.
Bonjour. Oui, d'accord.
Alors, dites-nous ce que vous inspire, vous, le projet entrepreneurial et votre formation, vous êtes à quel niveau et est-ce que vous envisagez d'entreprendre et dans quel domaine et comment?
Donc, aujourd'hui, voilà, je souhaiterais entreprendre, mais c'est dans un futur proche, parce que là, je suis encore focalisée dans tout ce qui est métier salarial.
Et vous êtes de quelle origine, madame?
Je suis d'origine camerounaise.
Parfait.
Et donc, oui, je souhaiterais, comme je vous ai dit tout à l'heure, entreprendre dans un futur proche, parce que je trouve que voilà, l'entrepreneuriat, c'est assez ouvert. Et puis, voilà, on peut faire ce que l'on veut et surtout être autonome de ses propres projets.
Et dans quel service, dans quel domaine souhaiterez-vous vous entreprendre?
Quelle activité?
Pour un retour d'expérience pour les autres, voilà.
L'activité, notamment, je suis ouverte dans tout parce que j'ai eu la chance d'intégrer une école de commerce. Donc voilà, je peux dire que je peux faire tout, notamment dans ce que j'ai eu à faire dans mes études parce que je suis issue d'une formation en contrôle de gestion et j'aimerais aussi, voilà, j'ai des projets en fait dans tout et ça dépend vraiment, ça ne dépend pas du secteur, mais en fait, je peux dire que tout est prometteur et dès que je vois en fait que voilà le projet est prometteur et que voilà c'est un sujet d'aujourd'hui ou de demain, je me lance. Par exemple, j'ai fait une école de commerce où j'ai fait une formation contrôle de gestion, mais je suis axée vraiment sur tout ce qui est cosmétique et j'aimerais vraiment lancer des projets. Donc voilà, tout est ouvert, tous les secteurs sont ouverts et je pense que
surtout qu'il existe de grandes firmes dans les cosmétiques. Il y a des grandes firmes qui existent partout, qui sont mondialement reconnues.
Exactement.
Oui, donc je pense en fait qu'il faut pas se fermer l'esprit à se dire que voilà, je veux faire que dans ce que j'ai fait comme étude, alors qu'il y a plein de projets en fait.
Vous avez bien raison. Il faut utiliser les outils. Les études, ce ne sont que des outils qu'il faut utiliser pour faire ce que vous voulez faire dans le cadre de votre projet professionnel. Comme je le disais lors d'une conférence à Grenoble récemment, l'objectif, ce n'est pas le diplôme. Le diplôme, c'est un tremplin pour la réalisation du projet professionnel. Donc, quand c'est dans l'entrepreneuriat, vous avez la latitude de déterminer quel sera l'enjeu commercial, quel produit ou service que vous allez vendre en utilisant les outils de votre formation. Effectivement, ça peut être dans les cosmétiques, alors qu'a priori, vous pouvez travailler dans la gestion. Vous pouvez vendre des services dans la gestion, dans le contrôle, l'audit et autres. Ça, c'est une possibilité immédiate. Mais si vous devez entreprendre aussi, vous pouvez voir une niche entrepreneuriale, comme par exemple les produits cosmétiques. Ici, ça marche parce que beaucoup, beaucoup effectivement, d'opérateurs, comme l'a dit Phil, n'ont pas appréhendé cette dimension, par exemple, exotique de tout ce qui est cosmétique. Vous pouvez apporter une plus-value à ce niveau.
Ouais.
Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler lors de nos prochains échanges.
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Madame Diotos.
Merci, Madame Diotos. Nous quittons Paris pour Grenoble ou Lyon, je pense. Nadjib Sek est-il en ligne ? Bonjour, Nadjib.
Oui, bonjour. Oui.
Vous nous appelez d'où, Nadjib ?
Oui, je vous appelle de Grenoble.
Bonjour, Nadjib. C'est Moussa Ali Outal.
Oui, bonjour, maître.
Au plaisir de vous parler encore, après la conférence.
Oui, pareillement.
Alors, dites-nous, vous, quelles sont vos appréhensions par rapport à l'entrepreneuriat ?
Moi, mes appréhensions par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que, bon, moi, je fais une formation en génie des procédés. Mm-hmm. Donc, là, je suis en dernière année. Mm-hmm. Et du coup, moi, en fait, j'avais un projet entrepreneurial depuis ma troisième année. Mm-hmm. En fait, sachant qu'au Sénégal, on a plusieurs types de fruits exotiques, fruits locaux qu'on utilise et avec lesquels, en fait, on fabrique des jus.
Des jus,
mais
ouais.
C'est des jus qui se font de manière artisanale.
Ouais. Mm-hmm.
Donc, du coup, moi, mon approche, c'était en tant qu'ingénieur procédé, je voulais, en fait, mettre en place des procédés qui vont permettre de pouvoir industrialiser tout cela, en fait.
Mm-hmm.
Et du coup, moi, mes contraintes, c'était parce que j'avais commencé à travailler là-dessus pendant ma troisième année. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure, après j'ai réfléchi, je me suis dit qu'en fait, industrialiser, en fait, ça va demander des financements énormes.
Mm-hmm.
Et du coup, bon, en fait, ça m'avait un peu dissuadé, donc du coup, j'avais arrêté.
Oui.
Mais je sais pas pourquoi, mais c'est temps, en fait, c'est revenu à l'esprit, sachant que aussi j'ai des projets de thèse. Et moi, je m'étais dit que peut-être ce serait bien, par exemple, si je pouvais avoir un appui, par exemple, ici, en restant ici, et peut-être en commençant, par exemple, quelque chose, sachant que c'est pas une expertise qui est développée au Sénégal. Moi, je me dis que peut-être en restant peut-être en France au début, au moins pour travailler le début du projet, peut-être ce serait faisable. Et du coup, par rapport à ça, je sais pas du tout, par exemple, comment faire ou quoi démarcher et comment réaliser cela, en fait.
Très bien. Moi, je pense que, Monsieur Sek, vous venez d'aborder une question très intéressante parce que ça répond à un besoin local. Effectivement, tout ce qui est agro-business peut être développé, mais il faut le faire dans le sens normalisé. Vous avez soulevé le nez de la guerre, c'est qu'il faut que ce soit dans les normes en vigueur au niveau alimentaire pour qu'on puisse exporter ces produits-là. Si on le fait de manière artisanale, entre nous, on peut les boire toujours. On peut même le faire dans le coin du village, alors qu'on a une bonne résistance au niveau des bactéries.
Du bon bissap
qu'on fait avec du sucre, là, 2 kilos de sucre pour 1 litre de bissap, et que ça ne va pas déplaire à un Sénégalais lambda qui a fini son ramadan et qui a soif. Alors que pour l'exporter, il faut respecter certaines normalisations. Je pense que ça, c'est intéressant, vous l'avez soulevé comme question, pour pouvoir parvenir à votre projet professionnel. Aussi, il faudra travailler avec des partenaires industriels. À vous seul, vous ne pourrez pas. Tous ceux qui l'ont fait, effectivement,
d'accord,
il faut collaborer avec des partenaires industriels qui sont déjà dans ce process et qui ont besoin d'acquérir de nouveaux marchés ailleurs et d'être vos partenaires.
D'accord.
Il faut penser à cela.
Mais,
et aussi
mais,
des partenaires...
mais à l'utile, avant les partenaires, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de que ce produit soit validé d'abord, qu'il soit apprécié?
Même pour la validation de ce produit, il a besoin de partenaires.
De partenaires.
Parce qu'il y a des cabinets d'études qui sont là, parce que là, c'est du gros travail. C'est à ce niveau-là qu'il faut commencer dès le départ pour la validation, la normalisation, respecter les normes ISO, tout cela. Il connaît mieux que moi ce que je suis en train de dire, même, parce que c'est son domaine.
Bon, on a pris l'exemple du bissap, ne pas
ça
mettre...
Ça peut être les mangas.
Hein, ça peut être des mangues, voilà.
Et aussi solliciter au niveau financier parce que vous allez répondre à un besoin social, vous allez créer de la plus-value, de la valeur ajoutée. À ce niveau-là, vous pouvez prétendre à des subventions. Il y a par exemple le Fonds Migration et Développement, le Fonds International pour le Développement Agricole qu'on appelle le FIDA, les Nations Unies qui peuvent vous aider. En France aussi, il y a le ministère français des Affaires étrangères, il y a le département du développement solidaire, il y a tellement de structures, il y a des organismes dans le cadre du mécénat qui peuvent vous accompagner. Il y en a beaucoup, on pourrait en parler, je pourrais vous orienter à ce niveau-là. Et aussi, merci, vous conseiller de prendre contact avec une ex-étudiante malienne qui a mis en place un projet dans ce sens-là, Essatou Diakité, avec qui j'ai eu à échanger sur son projet et qui avance, qui le fait au Mali avec sa structure qui s'appelle Zaban Holding. Je vous conseille de prendre contact avec elle parce qu'il faut qu'on soit en synergie. Vous devez être en synergie. Le retour d'expérience ne doit pas se passer que sur les réseaux. Ça doit être effectif. Et en cela, je pense que vous aurez intérêt à entrer en contact avec cette personne comme avec d'autres. D'accord ? J'aurai le plaisir de revenir avec vous sur ce sujet-là pour vous accompagner, pour vous conseiller. Parce que vous le valez bien.
Voilà, merci.
Très bien,
merci
beaucoup, Nadjib Sek. Je rappelle le sujet du jour, l'entrepreneuriat des diplômés étrangers en France contraint contraintes et opportunités. Appelez-nous donc en direct au 0155 07 58 05. Et même si vous êtes à l'étranger, hein, 33 1 5 05 58 00, n'hésitez surtout pas.
D'ailleurs, allez, pour l'étranger, on va y revenir. Il y a une personne qui aurait dû nous appeler du Canada. Ouais. Ce sera pour le mercredi prochain pour donner des conseils.
Parce que nous allons faire une deuxième partie.
Effectivement, aujourd'hui même, ils font une conférence, un colloque sur la thématique. Et donc, il y aura un retour d'expérience pour la semaine prochaine par rapport à ces sujets-là que nous traitons et qui traitent aujourd'hui même au Canada.
Alors, nous allons prendre cet auditeur. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Alors, notre auditeur qui est en ligne et qui ne répond pas parce que nous n'avons pas le nom qui s'inscrit. On va enchaîner peut-être avec cette question. En quoi la création d'entreprise est une nouveauté dans le parcours d'insertion professionnelle des étudiants étrangers à l'UTAL?
Oui, et pour traiter cette question qui est importante, je pense qu'il est bien de terminer ce qu'on a abordé tout à l'heure par rapport aux conditions. On disait qu'il ne faut pas faire une scolarité en yo-yo. On avait dit aussi que le refus de titre de séjour peut être justifié par un travail excessif. Quand on travaille beaucoup, par exemple, on a dit qu'il y a une limitation du travail, l'étudiant doit étudier principalement. Le travail est accessoire, il faut le faire de manière vraiment accessoire, ne pas dépasser les 964 heures. Sinon, ça peut être une cause de refus. Si cela devrait arriver, par exemple, je donne l'exemple d'un étudiant qui doit travailler dans le cadre d'un contrat d'alternance, il faut prendre la précaution préalablement de demander l'APT, l'autorisation provisoire de travail. Sinon, vous serez en faux. Et des étudiants qui étaient de bonne foi, qui l'ont ignoré et qui se sont vus délivrer un refus de titre de séjour, alors même qu'ils étaient de bonne foi du fait qu'ils ignoraient cette obligation de demander préalablement cette APT. Ne pas aussi se laisser piéger par la carte de séjour pluriannuelle que vous pouvez avoir. Mmh. Les étudiants dorment carrément quand ils l'ont, se disant que j'ai une carte de 3 ans, c'est le renouvellement. Ouais. La préfecture va contrôler, a le droit, depuis la loi du 7 mars 2016, entrée en vigueur le 1er novembre 2016, a le droit de contrôler que vous continuez de remplir les conditions de délivrance de cette carte. Elle va fouiller un peu partout avec votre bailleur. Est-ce que le droit au bail est effectif? Ah ouais. Avec votre contrat de travail, est-ce que vous dépassez le quantum légal qui est reconnu par le Code du travail? Avec votre scolarité, votre université, elle peut chercher partout pour voir si vous continuez de remplir ces conditions-là. Donc, il y a des étudiants qui ont eu au départ une carte pluriannuelle qui se sont retrouvés effectivement avec des problèmes. La préfecture les consulte et leur dit que venez, effectivement, il y a un souci et ça peut aboutir à un refus de renouvellement de titre de séjour. Une chose qu'il faut dire aussi par rapport à la nouveauté de la loi, ça c'est pour surtout les jeunes qui nous écoutent depuis là-bas, que vous êtes à Yopougon, à Yemble, à Brazzaville, où vous pouvez nous écouter. Il faut savoir que si vous comptez venir en France ici, alors même que vous n'avez pas un niveau de bac ou bac plus, vous avez la possibilité, avec la nouvelle loi qui est entrée en vigueur récemment, la loi qui est promulguée le 10 septembre 2018. Cette loi, maintenant, a formalisé une possibilité qui existait, qu'on appelle les jeunes au pair, qui était régie par des textes disparates. Maintenant, c'est structuré dans le Code des étrangers. Si vous avez entre 18 et 30 ans et que vous souhaitez venir en France pour améliorer vos compétences linguistiques, votre connaissance de la France, si vous avez de la famille ou des connaissances qui peuvent vous faire un accord, je donne par exemple, vous êtes à Yopougon, famille Koulibaly, vous avez votre cousin M. Koulibaly qui va vous faire cet accord-là. Votre rôle sera ici de les aider dans les services à la personne, comme la sortie d'école, donner des cours à leurs enfants, faire des travaux à la maison, ainsi de suite, et qui vous donne une petite somme d'argent en tant qu'argent de poche. Si vous avez ça, vous pouvez avoir la carte de séjour qu'on appelle jeune au pair. Ça, c'est une possibilité légale. Vous pouvez négocier ça depuis l'étranger. Si vous êtes à l'étranger et que vous voulez venir en France, au lieu de prendre les bateaux, c'est la possibilité qui vous est offerte par la loi entrée en vigueur récemment.
Voilà, nous allons repartir au téléphone. Allô, allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, c'est monsieur.
C'est monsieur Camara Sekou.
Monsieur Camara Sekou.
Bonjour, monsieur Camara. Vous écoutez Tal, à l'appareil.
Oui. Oui, bonjour, monsieur Tal.
Vous nous appelez d'où et vous êtes de quelle origine?
Moi, je suis guinéen, je vous appelle Denis.
Parfait, monsieur Camara, parfait. Bienvenue.
Bienvenue.
Alors, d'accord, qu'est-ce que vous inspire l'entrepreneuriat et au niveau de vos études? Parlez-nous un peu de ce que vous faites et comment vous l'envisagez.
D'accord. Et bon, moi, je fais Master 2 en gouvernance et financement du développement ici à l'Institut, à l'Université de Nice. Mais à côté de ça, je suis avec deux de mes amis étudiants étrangers aussi, un Sénégalais et un Nigérien.
Oui.
Et nous comptons mettre en place un bureau d'études spécialisé en matière des contrats de PPP, partenariat public-privé.
Privé, très bien.
Oui, c'est-à-dire tout ce qui est lié au financement du développement en Afrique.
Très bien.
Voilà, donc actuellement, j'ai mon ami qui est en train de faire des recherches sur l'autoroute à péage de Dakar, Dakar-Yamiador. Mmh. Et il y a l'autre aussi qui fait des recherches sur les PPP au Niger. Et personnellement, je travaille sur les investissements en Guinée dans le domaine de l'assainissement. D'accord. Et donc, dans un proche futur, nous comptons mettre en place.
Très bien.
Voilà. Nous comptons mettre en place un bureau d'études dans ces domaines. Par contre, nous craignons beaucoup les enjeux politiques qui tournent autour de ce secteur PPP en Afrique. Donc, nous voulons vraiment avoir des conseils pratiques. C'est vrai qu'on a commencé à approcher des profs ici qui sont spécialisés dans ces domaines. Mais vous aussi, en tant qu'un professionnel, on aimerait vraiment avoir des conseils. Est-ce qu'il faut créer d'abord le bureau, c'est-à-dire la structure en France ici, avant de débarquer sur le terrain? Ou est-ce qu'il faut partir comme ça en Afrique, sachant vraiment des enjeux politiques qui sont là, vraiment nous avons des craintes à ce niveau quoi.
Très bien. En fait, je vous félicite déjà de votre initiative parce que ce que vous êtes en train de proposer, il n'y a que des expatriés qui le proposaient. Or, on a toutes les compétences au niveau de nos ressources. On a tous les étudiants qui ont toutes les compétences. Tout ce que l'Afrique a besoin, on a formé déjà les compétences. Il faut juste les solliciter. Et maintenant, il appartient maintenant à nous, il nous appartient à nous structurer pour montrer que nos compétences, on peut les mettre à profit. Et donc, d'où la logique que vous êtes en train de prendre, c'est une bonne logique. Et ce que je vous conseille d'abord, c'est de créer la structure parce que vous êtes ici. Créer une société commerciale, ne pas créer une société de forme individuelle. On va y revenir, Phil, la semaine prochaine sur les meilleures formes adaptées à l'entrepreneuriat des étudiants. Une société de capital, par exemple, une SAS, société par action simplifiée, ça peut être adapté à votre projet. Ne choisissez pas les formes légères.
Ce sera une société française.
Une société française, pas de forme société à nom collectif, pas de EIRL. Soit SARL, soit SAS. Pas de SA parce que je pense que vous n'en aurez pas les moyens au niveau du capital qu'il vous faut au moins 37 000 euros. Déjà ça, c'est ça. Il faut créer cette structure ici. Et là-bas, ce que je vous conseille, c'est plutôt de créer un groupement d'intérêt économique. Ce groupement d'intérêt économique sous la législation de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Vous le savez, ça vous permet donc d'opérer partout parce que c'est la même législation qui est en vigueur dans tous ces pays qui vous intéressent. Une fois que cela est fait maintenant, au niveau technique, vous pouvez commencer à prospecter ici. Vous avez parlé d'un problème important, on va y revenir, c'est l'enjeu politique. Parce qu'effectivement, les PPP, ce qu'on appelle partenariat public-privé, c'est considéré par certains comme l'outil de néocolonialisme qui permet à certains dirigeants de donner des marchés à des pays ex-colonisateurs sans regarder la faisabilité et la rentabilité du projet. Je donne un exemple, une autoroute qui est construite avec 50 milliards d'euros sur 20 km, je n'accuse nulle part, je donne juste, alors qu'avec le même montant, on pourrait construire la même autoroute sur 4 fois plus long. Vous comprenez ? Là, ça veut dire qu'il n'y avait pas de critères objectifs. Vous ne devez pas entrer dans ce schéma-là. Vous devez utiliser vos outils techniques, vos outils opérationnels pour que ce soit rentable et gagnant-gagnant. C'est en ce sens que le PPP peut être un outil de développement pour nos pays d'origine, sinon ce sera vu par beaucoup comme un outil de néocolonialisme. Vous devez éviter cet écueil-là. C'est le premier conseil que je vous donne. D'accord ? Et pour le reste, on aura l'occasion d'y venir dans les détails pour vous donner aussi au niveau de la stratégie, qu'est-ce que vous devez avoir comme méthode stratégique pour revenir à vos fins.
Merci beaucoup, Sekou Camara. Nous n'avons plus suffisamment de temps, parce qu'il y a Ambiance Africa qui arrive, bien évidemment. Donc, on reviendra sur le sujet la semaine prochaine. Mais cette émission sera, bien sûr, en podcast sur le site de la radio africaine www.africaradio.com. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas, laissez-nous des messages sur le répondeur. Nous avons donc écouté Madame Ramatoulaye Diallo de Lyon, Fatou Marigaye de Lyon, Audrey Diotos de Paris, Najib Sek de Grenoble. À l'instant, on était avec Sekou Camara qui nous appelait de Nice. La semaine prochaine, on aura certainement Lisette Zongo, Pacom Bako, Fatima Ba. Et si vous également, vous êtes étudiant, n'hésitez surtout pas. C'est la fin de cette émission. Merci à Lutal.
Merci Phil.